Place Info.
Christophe Castaner.
Bonjour.
Un millier de migrants évacués depuis tôt ce matin du nord de la capitale. C'est la 60e opération de ce type en 5 ans à Paris. Est-ce qu'ils ont vocation à revenir dans les jours qui viennent s'installer au même endroit ?
D'abord, c'est une politique globale. Vous pouvez parler de Paris parce qu'évidemment, c'est un campement important. Mais dans le mois qui vient, j'ai procédé à la mise à l'abri de personnes en situation de détresse, vu les conditions dans lesquelles elles vivent, sur Grande-Synthe, sur Calais, sur Nantes, et puis des évacuations de squat aussi, et donc nous faisons cela de façon régulière. Mais c'est vrai que sur Paris, nous avions un point de tension particulièrement important qui se développait malgré des mises à l'abri hebdomadaires. Toutes les semaines, nous faisons remonter 200 places d'hébergement en province pour accompagner ces femmes et ces hommes, principalement des hommes dans le cas parisien, qui sont sur ces sites-là. Et ça ne suffit pas. D'où la volonté effectivement d'avoir une opération d'ampleur. Nous nous y sommes engagés. Elle va prendre du temps. Deux des trois sites, parce qu'il y a aussi la porte d'Aubervilliers, sont aujourd'hui pris en main pour pouvoir mettre à l'abri les personnes qui sont sur place. Nous poursuivrons, nous traiterons aussi du sujet de la colline du Crac d'ici Noël, où là il nous faut des places d'hébergement sanitaire parce qu'on a des situations toutes particulières. Nous ferons cela avec méthode et nous veillerons à empêcher qu'il y ait des réinstallations sur le site.
Voilà, ça signifie que les forces de l'ordre vont rester sur place dans les jours et les semaines qui viennent pour éviter que ces personnes ne se réinstallent au même endroit.
Oui, et il faut aussi des aménagements physiques pour empêcher cela, en particulier sur le périphérique ou à proximité du périphérique. Je les ai demandé à la mairie de Paris. Je pense que c'est important. À Calais, c'est comme ça que depuis 2015, vous vous souvenez de ce qu'on appelait la jungle de Calais, avec près de 10 000 migrants qui étaient accueillis dans des conditions épouvantables. Petit à petit, l'État a mené un combat de reconquête sur le site. La mairie a mené aussi ce combat-là avec des aménagements physiques. J'étais la semaine dernière à Calais pour la présentation, vous en avez sûrement parlé sur votre antenne, des Dragons de Calais, où on voit une reconquête de la ville sur cette image qui était une image négative de situation de migrants qui vivaient dans des conditions épouvantables.
Renaud Dely.
Ça veut dire que le sort des personnes qui ont été évacuées ce matin, à terme, quel va être ce sort à terme, à long terme? Est-ce que vous allez trouver des places d'hébergement durable pour toutes ces personnes qui ont été évacuées ce matin? Est-ce que il va y avoir, elles vont être chaque cas va être étudié précisément? Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors ça dépend des personnes et donc pour répondre à votre question, oui, chaque cas doit être étudié personnellement. Donc les gens sont mis à l'abri dans des centres avec des associations qui nous accompagnent, avec les services de l'État qui sont présents. Et donc, nous allons regarder la situation de chacun. Il y a des femmes et des hommes qui sont en parcours de demande d'asile. Et donc, il nous faut, et on a des places dédiées pour cela, que nous avons doublées en France depuis 2015. Elles seront plus de 100 000, ces places disponibles sur les différents dispositifs, d'ici la fin de cette année. Et donc, on voit qu'on a aujourd'hui une volonté forte de mettre à l'abri et de mieux accompagner celles et ceux qui sont en demande d'asile. D'autres ont déjà des papiers. Et là, c'est la situation la plus dingue du système. C'est-à-dire, ce sont des femmes et des hommes qui sont venus en France, qui ont demandé la protection, qui ont fui des pays en guerre, à qui nous accordons la protection. Et une fois qu'ils ont ce titre de protection, ils sortent du système. Et notamment, ils n'accèdent pas au logement social. Et donc, nous donnons sur notre quota réservataire de l'État la priorité aussi à ces femmes et ces hommes qui sont en protection pour accéder à du logement social privé que vous connaissez. Je me suis engagé dans le plan que le Premier ministre a présenté hier à ce que 16 000 places supplémentaires soient trouvées pour 2020 pour faire cela. Et puis il y a une troisième catégorie, celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester en France, qui n'ont pas de titre de séjour, qui ont fait des demandes qui n'ont pas abouti, pour lesquelles nous prendrons des obligations de quitter le territoire français et pour certains d'entre eux, nous procéderons aux éloignements.
Christophe Castaner, ces évacuations donc ce matin à Paris, et vous nous disiez qu'il y en aurait d'autres ailleurs en France dans les mois qui viennent, interviennent donc au lendemain de la présentation du plan du gouvernement. Vous étiez aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe. Voilà comment il a résumé la philosophie de ces annonces hier.
Le sens général de notre action, c'est celui de la souveraineté. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Reprendre le contrôle, c'est exprimer et assumer des choix clairs en matière d'accueil et d'intégration. Reprendre le contrôle, c'est faire en sorte que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui, et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non.
Reprendre le contrôle, pardon d'être un peu terre à terre, ça veut dire qu'on l'avait perdu ces dernières années.
Ça fait longtemps qu'on a perdu le contrôle. Ça fait longtemps qu'on a perdu le contrôle de l'intégration, en particulier de
celles et ceux
que...
Ce ne sont pas les mots du Premier ministre. Reprendre le contrôle de l'immigration en France.
Non, mais c'est global. L'immigration implique aussi l'intégration. Pour moi, les deux sont liés. Et qu'un des échecs que je constate aujourd'hui, c'est celui de la non-intégration, parce que nous n'avons pas su accompagner celles et ceux à qui nous avons quelquefois demandé de venir, et celles et ceux à qui nous avons autorisé de venir. Mais ensuite, il y a aussi une situation que l'on peut constater. Aujourd'hui, et qui est paradoxale, le nombre de demandeurs de réfugiés en Europe baisse. Il baisse significativement. Mais depuis 3 ans, il ne cesse d'augmenter en France. Nous sommes depuis le 20 octobre devenus le premier pays de l'ensemble européen devant l'Allemagne pour les demandes d'asile. Ça montre bien qu'effectivement, nous ne maîtrisons pas ce flux-là et nous avons du coup un mauvais accompagnement, y compris pour instruire les dossiers. C'est ce que nous voulons changer. Les 20 mesures que le Premier ministre a présentées hier doivent nous permettre de changer cela.
Elle signifie qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui en France, trop d'entrées sur notre territoire. Est-ce que c'est l'objectif final de ces mesures ?
Non. Non, parce que je pense que c'est le faux débat dans lequel nous sommes depuis des années. C'est le faux débat entre la droite et la gauche traditionnelle où on se jette à la figure des nombres, on dit « oui, mais vous exécutez mal les obligations de quitter le territoire français ». Ça fait des années qu'on est dans ce débat-là. Et pendant ce temps-là, on n'a pas vu que nous n'étions pas capables de bien intégrer ceux que nous accueillons. On n'a pas vu cette jeune génération qui, au fond, est issue de l'immigration, mais n'est pas elle-même dans le process de l'immigration, qui finalement n'a pas trouvé sa place dans notre société.
L'objectif
nous
du
sommes
gouvernement...
à passer à côté de ce qui est fondamental. Le débat, c'est pas celui du nombre. Je pense vraiment que c'est la plus mauvaise des approches.
L'immigration aujourd'hui ne baissera pas pendant la fin du quinquennat. Mais le nombre d'entrées sur le territoire ne baissera pas.
Mais on n'est pas sur des objectifs quantitatifs. Je vais prendre un exemple simple. Toute personne qui viendra en France et qui demandera la protection, l'asile, verra son dossier étudié et elle sera accompagnée. Je suis bien incapable.
Il y a l'asile, il y a le regroupement familial, il y a l'immigration économique, on va en parler dans quelques instants.
Je prends l'exemple du regroupement familial. Il ne bouge quasiment pas depuis une dizaine d'années, il est stable. Par contre, je ne peux pas vous donner d'objectifs chiffrés sur l'asile pour une raison simple. Ce qui se passe actuellement en Turquie et surtout en Syrie du fait de la volonté turque a des conséquences en matière migratoire sur l'Europe. Ce qui se passe en Tunisie, ce qui peut se passer en Algérie aura forcément des conséquences aussi.
Comment pouvez-vous dire, Christophe Castaner, d'un côté que vous avez des chiffres effectivement stables et de l'autre côté dire que le gouvernement avait perdu le contrôle de sa politique migratoire ?
Mais je vous ai donné l'exemple de cette évolution significative, spectaculaire en matière de demande d'asile. Pourquoi on perd le contrôle ? C'est quand aujourd'hui vous avez un plus grand nombre de gens qui viennent en France alors que vous avez moins en Europe, ça veut dire que vous avez effectivement un dysfonctionnement.
Une immigration incontrôlée, c'est exactement les termes qu'a employé Marine Le Pen.
Mais vous pensez, Monsieur Delis, que l'immigration est contrôlée en France depuis 30 ans ?
C'est vous le ministre de
l'Intérieur. Ça veut dire que les lois ont été conquises par votre prédécesseur.
En France depuis 30 ans.
Mais depuis 30 ans, nous voyons bien que nous ne contrôlons pas l'immigration et que nous la subissons, la preuve, les mauvaises conditions d'accueil dans notre pays. Moi, ce que je souhaite et ce que présente le Premier ministre, c'est un plan d'action qui peut nous permettre de mieux intégrer, de mieux loger, de mieux accompagner. C'est essentiel. Je vais prendre un petit exemple. Un mineur non accompagné qui se retrouve seul en France, qui est intégré dans le système, est en apprentissage. Il arrive au jour de ses 18 ans. Il a 18 ans, il est plus mineur non accompagné, il perd son titre, il doit sortir de l'apprentissage et se retrouve à la rue. Ça fait partie des choses que nous ne maîtrisions pas. Je souhaite qu'on les maîtrise et je souhaite qu'on puisse accompagner ce jeune-là, par exemple.
On va poursuivre dans un instant cet entretien avec vous, Christophe Castaner, pour notamment aborder la question des quotas. Vous allez nous expliquer comment ça va fonctionner, les quotas de migrants économiques, dans les années qui viennent. D'abord, Mélanie Delaunay à 8h41 pour l'essentiel de l'actu.
À qui le tour ? Si vous avez toujours rêvé de boursicoter, la souscription débute aujourd'hui à la Française des Jeux. Jusqu'à un tiers des actions mises en bourse sont réservées aux particuliers. Ticket d'entrée minimum 200 euros. Là où on attendait un geste d'hospitalité, on envoie 600 policiers mettre des gens à la porte. Réaction sur France Info d'un responsable du secours catholique à l'évacuation de deux campements de migrants, porte de la Chapelle à Paris et en Seine-Saint-Denis. Elle est en train de se terminer. La justice va-t-elle valider les poursuites contre l'AFA ? Réponse aujourd'hui sur les recours déposés par le cimentier mis en examen pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité pour ses activités en Syrie. Le Paris Saint-Germain assure l'essentiel, victoire 1-0 contre Bruges, un but d'Icardi, synonyme de place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich et la Juventus Turin sont également qualifiés.
France Info. Et tout est plus clair.
La France va donc mettre en place des quotas de migrants économiques dans les années qui viennent. Écoutez, Christophe Castaner, ce qu'en disait votre collègue, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, à cette même heure, hier matin, chez nos amis de France Inter.
Je n'ai jamais pensé que les quotas étaient la réponse, la seule réponse. Ce que j'ai lu sur les pays qui ont instauré, comme l'a dit Thomas Legrand, sur les pays qui ont instauré des quotas obligatoires, ça n'a jamais marché. Donc je ne crois pas que ce soit... Enfin, il me semble que c'est ce que j'ai lu. Je ne crois pas que ce soit la réponse.
Ça n'a jamais marché, dit Nicole Belloubet. Ce sont les mots qu'utilisait Emmanuel Macron, candidat en 2017, lorsqu'il expliquait pourquoi il était contre.
Mais Nicole Belloubet dit quoi ? Ça n'est pas la seule réponse. Et si on est sur des quotas plafonds, ça n'est pas la bonne réponse. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'a dit le Premier ministre hier matin, et c'est ce que je vous dis ici. Aujourd'hui, il y a déjà une migration économique. Un peu plus de 33 000 titres sont accordés dans ce cadre-là. Mais sur des métiers dont on ne sait pas s'ils sont des métiers en tension, sur des régions dont on ne sait pas si ce sont les régions où on a besoin. Donc nous avons un objectif simple, permettre, favoriser une immigration économique là où nous avons besoin de main-d'œuvre, là où nous avons besoin de cerveau, là où nous avons besoin de savoir-faire.
J'essaie d'être concret, Christophe Castaner.
J'essaie aussi de l'être.
S'il ne s'agit pas d'un quota plafond, si l'Assemblée nationale vote par exemple un quota de 500 plombiers en région Alsace, si 500 plombiers arrivent en Alsace et qu'un 501e se présente, on le prend quand même, oui, ou on lui demande de revenir l'an prochain?
Mais non, on le prend quand même parce que on est justement sur des objectifs quantitatifs. Et donc, on n'est pas sur un nombre brut, bête et méchant. Et donc, du coup, ce sont des objectifs. Mais c'est pour favoriser une immigration qui est une immigration économique. Il y a d'autres formes d'immigration. L'immigration étudiante, on suit des objectifs plus ambitieux, on veut la doubler.
Il ne s'agit pas de baisser l'immigration économique, pour être très concret. Vous aviez dit, effectivement, 33 000 à peu près migrants économiques chaque année. Il ne s'agit pas de baisser ce chiffre.
Aujourd'hui, chaque jour, une entreprise sur deux que vous sollicitez en France vous dit qu'elle a des problèmes de recrutement de main-d'œuvre. Et donc, si nous avons besoin, pour aider son développement, de faire appel à une main-d'œuvre étrangère, ce qui est le cas, vous savez, je suis dans le sud de la France. En ce moment, on termine la saison arboricole sur la pomme. Je peux vous dire que depuis de longues années, on fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Il y a des titres de séjour qui sont prévus pour cela, pour ceux qui ne viennent pas d'Europe. Et c'est un système qui fonctionne bien. Par contre, nous voulons l'organiser au niveau du territoire national, l'organiser par filière en fonction des besoins et sur une cartographie qui a plus de 10 ans aujourd'hui sur les emplois en tension, et nous voulons changer cela. Mais il ne s'agit pas pour nous d'en faire une arme anti-immigrée, une arme anti-étranger, il s'agit d'avoir une politique là aussi maîtrisée sur la migration économique. Elle ne l'était pas parce qu'elle ne correspondait pas à des réalités, des besoins. Donc, demain, elle doit l'être.
Concrètement, comment allez-vous faire pour déterminer ces secteurs en tension, ces quotas selon ces secteurs en tension? Vous en appelez donc au patronat, vous avez besoin d'une collaboration avec le MEDEF pour les...
Très concrètement, je ne vais pas vous répondre parce que je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que la ministre du Travail a un service qui s'appelle la DARES, dont c'est la spécialité, qui va faire cette cartographie à la fois des métiers en tension et à la fois des besoins. Donc elle va travailler avec tous les acteurs, les entreprises,
les partenaires sociaux, les régions, le patronat, les syndicats,
les régions qui ont cette cartographie-là aussi quand elles mettent en place des plans de formation, sachant qu'on veut travailler sur la double dimension, les besoins immédiats, mais aussi les besoins à 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir besoin d'avoir des gens qui viennent aussi sur ces projections que nous faisons en matière économique.
Sur la question du voile, Christophe Castaner, on a entendu ces derniers jours et ces dernières semaines à peu près tous les ministres, y compris d'ailleurs celui de l'éducation nationale, mais pas forcément vous, en tout cas pas forcément votre voix, alors que vous êtes en charge du culte. Pourquoi ? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que vous n'avez rien à dire sur cette question ?
Non seulement vous auriez pu entendre ma voix, mais peut-être même me voir si vous avez regardé l'émission politique de France 2 à 21h, à un moment important où je me suis exprimé sur le sujet. Mais je suis exprimé aussi au sein de l'Assemblée nationale comme au sein du Sénat. Donc je voudrais vous rassurer sur ce sujet. Par contre, ce que j'ai dit et ce que je vais vous redire, c'est que je pense que ça n'est pas le cœur du débat. Et qu'on a une spécialité française, alors sur le voile, ça fait 30 ans aussi, parce que c'est un excellent marqueur pour savoir qui est de droite et qui est de gauche. Vous savez d'où je viens, j'étais au Parti Socialiste, et alors c'était formidable. On pouvait s'opposer sur ce sujet-là. Et pendant ce temps-là...
Quand on est de droite, on veut une loi, quand on est de gauche, on n'en veut pas, c'est ça? C'est aussi simple que ça?
Oui, vraiment, le débat est totalement caricatural, et vous l'avez vécu, subi, j'imagine, ces trois dernières semaines. Et donc je pense que ça n'est pas le débat. Aujourd'hui, il y a une loi simple, claire, nette, précise, appliquons-la. Et sortons de ce débat-là. Par contre, ce qui me préoccupe, moi, comme ministre de l'Intérieur et comme ministre de culte, c'est de voir ces femmes et ces hommes qui mélangent tout. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion, c'est une culture. Et pour certains, ce doit être un système politique qui est concurrent avec celui de la République française. C'est ce que moi j'appelle l'islamisme rampant que l'on connaît dans les quartiers. Et donc c'est de ça dont je préfère parler, plutôt que d'avoir ce débat picrocolin sur la question du voile.
Le nouveau président des Républicains, Christian Jacob, a écrit au chef de l'État pour lui demander d'installer une commission un peu du type de la commission Stasi, qui avait été préalable à l'adoption de la loi de 2004. Une commission, justement, transpartisane pour réfléchir à la réglementation du port du voile dans la société française. Est-ce que vous êtes favorable à l'installation d'une commission de ce type?
Mais quel est l'intérêt ? de débattre encore pendant des mois de la question du voile en France. Je pense qu'on peut prendre un tout petit peu de hauteur et qu'on peut se mobiliser sur les questions fondamentales, celles du communautarisme, celles de l'islamisme. Et ça va bien au-delà de la question du voile.
C'est donc non, il n'y aura pas de
commission. Ah mais moi je suis prêt à discuter de tous les sujets. C'est sorti dans la presse, j'ai invité la semaine prochaine deux personnalités politiques de droite à un petit déjeuner pour travailler sur la question des listes communautaires.
Xavier Bertrand et Bruno Retailleau en l'occurrence, qui eux-mêmes justement vont probablement dévoiler une proposition de loi demain sur cette question des listes communautaires qui pourraient être présentées lors des élections municipales. Est-ce que vous avez l'intention d'interdire ces listes communautaires?
D'abord, j'ai pas le texte de loi, mais je les ai invités à venir discuter avec moi. Et pour vous dire que je me montre ouvert, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la vérité, le ministre de l'Intérieur, moi et d'autres qui auraient le mensonge, ça n'est pas le cas. On est sur un sujet très sensible. Mais on est sur un sujet qui implique aussi la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait que n'importe qui a le droit de se présenter à une élection. Et qu'il soit de confession juive, musulmane ou chrétienne, ne doit pas rentrer en compte.
C'est quoi une liste communautaire?
Mais justement. C'est le vrai sujet. C'est
que moi, je ne sais chrétien, pas. Qui comme existe. Celui qui a dirigé Christine Boutin autrefois, c'est un parti communautaire.
Je crois que c'est M. Poisson qui le dirige. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est une liste communautaire. Par contre, je sais ce que sont les comportements communautaires. Je sais ce que sont les mots communautaires. Je sais l'antisémitisme porté par certains, y compris dans leur expression politique. Et c'est cela que moi, je condamne. Et c'est cela que je veux, dans la préparation des élections municipales, que les préfets puissent sanctionner de façon systématique.
À condition de trouver les critères.
À condition d'avoir effectivement des critères qui ne soient pas oui, mais il a une religion, et l'islam en particulier, c'est insupportable. Vous savez, cet après-midi, je serai à la grande mosquée de Paris pour rendre hommage aux musulmans morts pour la France. Et je serai présent, je crois que je serai un des premiers ministres de l'Intérieur à être présent aux côtés des autorités religieuses, aux côtés du recteur de la mosquée d'Ali Boubacar, parce que je sais cet engagement-là. Et je fais vraiment la différence entre l'islam, la religion, la culture, et l'islamisme, qui est un adversaire contre lequel nous devons nous mobiliser tous ensemble de façon transpartisane, mais pas à travers une commission où on va débattre du voile, sur le fait de savoir comment justement, quartier par quartier, mètre carré par mètre carré, on reconquiert la République.
Vous avez rappelé votre passé de gauche, Christophe Castaner, c'est d'ailleurs peut-être toujours votre présent.
Oui, je sais pas pour si moi ça je s'est considère que dans le c'est macronisme. Mon présent et j'ai bien noté que ça n'était pas un reproche.
Qu'est-ce que, il n'y a pas de reproche dans ma question, qu'est-ce que vous pensez de vos anciens camarades, anciens amis qui vont aller manifester dimanche prochain pour dénoncer l'islamophobie en France?
Alors, je crois avoir vu que le Parti Socialiste ne participait pas à cette manifestation. Alors, si certains d'entre eux, je crois que Génération...
le parti de Benoît Hamon, oui.
Donc,
voilà. Vous n'étiez pas ministre, vous seriez allé manifester?
Non, je n'irai pas parce que je crois qu'il y a des mots en ce moment qu'on utilise et qui n'apaisent pas le débat, qui au contraire l'accentue, le stigmatise, l'aggrave. Et celui du débat sur l'islamophobie aujourd'hui contribue à cela.
Est-ce c'est qu'il pour y a ça que je ne reprends pas aujourd'hui dans notre pays.
Il y a du racisme, il y a des gens qui contestent la religion islam, comme il y a de l'antisémitisme aussi, et je le condamne évidemment. Mais ceux qui utilisent ce mot-là aujourd'hui s'en servent pour empêcher de critiquer l'islamisme, le communautarisme que je dénonce. Et donc je veux garder cette liberté de le dénoncer tout en disant que je respecte totalement la religion de l'islam et que mon rôle comme ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que ceux qui font le choix religieux, quel qu'il soit, mais de l'islam en particulier, doivent être défendus et je veux les défendre.
Et le texte qui appelle à cette manifestation mentionne aussi et dénonce des lois liberticides qui visent les musulmans en France. Est-ce qu'il y a, selon vous, Christophe Castaner, aujourd'hui des lois liberticides en France qui visent les musulmans?
Je ne crois pas et j'ai pu noter que
vous
certains...
Vous ne croyez pas? Vous n'êtes pas sûr?
Ah non, mais je pense que ça n'est pas le cas. Et j'ai bien noté qu'il y avait certains des signataires qui, eux-mêmes, alors qu'ils avaient signé le texte, considéraient qu'il n'y en avait
Yannick
pas
Jadot
non plus.
Ici même, qui était à votre place il y a quelques jours,
et François Ruffin. D'autres. J'ai vu que François Ruffin faisait des gaufres au moment où il a signé ce texte-là.
Et il a expliqué qu'il irait jouer au foot dimanche prochain, voilà, qu'il ne serait pas dans la manifestation.
Donc ça montre le peu de sérieux de cet appel-là. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui une montée du racisme dans notre pays, elle n'est pas récente. Il n'empêche que certains contestent même le fait de pouvoir avoir une pratique religieuse et l'islam en particulier, et cela est condamnable, je le condamne.
8h51, Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actualité, et on poursuit cet entretien avec vous, Christophe Castaner.
Il y aura désormais une présence policière permanente pour éviter la reconstitution des campements, affirme le préfet d'Île-de-France. Un millier de migrants évacués ce matin, porte de la Chapelle à Paris et en Seine-Saint-Denis. Ils sont acheminés vers 15 gymnases de la région. C'est la première fois depuis 15 ans et la privatisation d'EDF que la France n'avait pas lancé une telle opération. Les actions françaises des Jeux en vente. À partir d'aujourd'hui, l'État cède 52% du capital et espère en retirer plus d'1 milliard d'euros. Des aménagements temps de planning, le port de signes religieux ou des prières sur le lieu de travail, 72% des encadrants constatent que le fait religieux est en hausse dans leur entreprise. Mais c'est de moins en moins conflictuel, dit l'auteur de ce rapport de l'Institut Montaigne dévoilé par France Info. Et puis Rachida Dati investit, la maire du 7e arrondissement de Paris, désignée candidate des Républicains aux prochaines municipales dans la capitale.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et avec Renaud Dely.
Vous évoquiez un instant, Christophe Castaner, la montée du racisme à l'endroit de nos compatriotes de confession ou de culture musulmane. L'émotion qui existe aujourd'hui dans cette communauté a été renforcée notamment par l'attaque de la mosquée de Bayonne. Pourquoi est-ce que le président de la République ne s'est pas rendu sur les lieux ?
Je ne me suis pas rendu non plus sur les lieux. Laurent Nunez a été sur place immédiatement. Il est vrai que moi, j'étais à Munich à ce moment-là avec les ministres de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de mort. Par contre, il y a eu une condamnation politique massive de toute la classe politique et du président de la République aussi. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais il y a aujourd'hui une émotion vive pour protéger les mosquées, effectivement. C'est la communauté religieuse de ceux qui ont fait le choix de l'islam qui était mise en cause par le comportement totalement scandaleux, dingue, criminel aussi dans sa volonté.
C'était un attentat.
Homme. Non, ça n'est pas un attentat, parce que vous savez la définition de l'attentat. Il appartient au procureur national antiterroriste de qualifier ou pas si un fait est considéré comme terroriste, donc relève de la définition de l'attentat. L'attentat, c'est une volonté politique de tuer. Et donc, ça relève d'une définition juridique précise. Le procureur a considéré que les éléments qu'il avait en sa disposition ne conduisaient pas à qualifier en attentat et donc en acte terroriste.
Christophe Castaner, deux questions d'actualité. D'abord, sur les derniers chiffres des policiers blessés en France. Des chiffres en forte hausse l'an dernier, plus 16%, ils ont été communiqués cette nuit. Est-ce que c'est une conséquence du mouvement des Gilets jaunes ?
Pour l'essentiel, oui.
Oui. Vous vous attendiez à ces chiffres ?
Oui, parce que nous avons un tableau de bord des blessés, qu'il s'agisse des blessés d'ailleurs dans les manifestations de Gilets jaunes qui étaient des manifestants, mais aussi des blessés dans la police. Et donc nous savions que nous serons cette hausse. Mais au-delà, ce que je note, c'est, si je prends les 9 premiers mois de cette année, en matière de violence urbaine, par exemple sur l'agglomération parisienne, on en parle beaucoup, évidemment, après ce qui s'est passé le week-end dernier, elles sont en baisse significative. Mais il n'empêche que le type de violence a augmenté dans la gravité et que les violences contre nos policiers sont fortes. Mais c'est pas nouveau. Vous vous souvenez, et on est en plein procès d'ailleurs d'assises sur ce sujet, Viry-Châtillon-Grigny en octobre 2016, 4 policiers qui sont pris à partie, qui sont blessés très gravement. C'était un de mes premiers déplacements et en ce moment, il y a le procès d'assises. Donc il y a par contre une violence, pas forcément une baisse, mais il y a une violence de plus en plus grave et la volonté de nuire, la volonté de frapper, la volonté de tuer. Ce que nous avons vu ce week-end, c'est cela aussi.
L'actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle, des faits qui seraient déroulés lorsqu'elle était mineure pendant le tournage d'un film. Elle l'a dit le week-end dernier dans Mediapart en disant en même temps qu'elle ne voulait pas porter plainte parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller porter plainte dans ce genre d'affaires. Finalement, la justice a ouvert une enquête hier, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire à elle et aux autres femmes, possiblement, je dis ça parce que la justice n'a pas tranché son affaire, possiblement victimes?
D'abord, il faut la rassurer. Il faut la rassurer parce qu'elle porte un traumatisme extrêmement violent de ce qu'elle évoque avoir subi. Et donc, je veux la rassurer sur ce sujet et lui dire que la police comme la justice seront à ses côtés. Vous savez, aujourd'hui, chaque jour, il y a 200 femmes qui viennent dans un commissariat, qui viennent dans une caserne de gendarmerie ou qui appellent un policier ou qui appellent un gendarme que nous accompagnons. Chaque jour, il y a peut-être une femme, deux femmes, 10 femmes qui sont sauvées par la police et la gendarmerie. Il y arrive qu'il y ait des loupés. Et ils sont insupportables. Et je les condamne, évidemment. Il nous faut améliorer cela de façon permanente. Et vous savez que c'est le travail que nous menons au sein du gouvernement. Mais surtout, je veux lui dire à elle qu'elle doit faire confiance dans la justice. La justice s'est saisie elle-même de l'instruction de ce dossier. Nous avons fait évoluer les textes, y compris sur la durée de prescription. Et dans la durée, c'est pas propre à ce gouvernement, nous devons maintenir l'effort. Ces violences-là, ces attaques-là sont totalement insupportables parce que elles mettent en cause la civilité. La civilité, c'est la façon dont on vit ensemble. Ben, ces comportements-là, de prédateurs sexuels, les mettent en cause.
En France, Christophe Castaner, depuis 2 ans, et le début de la vague MeToo, il y a eu une seule condamnation en France. Et cette condamnation, c'est celle de la jeune femme qui a été condamnée pour diffamation après avoir initié le hashtag « Balance ton porc ».
Non, mais il y a des condamnations.
Vous comprenez que ça puisse susciter le trouble chez les femmes victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel?
C'est votre chiffre qui me trouble, parce qu'il y a, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, des condamnations en France pour des actes violents ou des violences sexuelles de
J'évoque ceux qui ont été dénoncés dans la vague MeToo depuis 2 ans en France. Hein.
Parce que ça fait un peu moins de 2 ans et que le temps de la justice est un temps qui est un peu long, mais c'est celui où on cherche la preuve pour condamner quelqu'un. Il faut accepter ce temps long. La précipitation n'est jamais la meilleure conseillère de la justice.
Mais la question de la preuve, comment on l'aborde, justement, quand c'est parole contre parole, comme dans le cas d'Adèle Haenel ?
C'est un problème fondamental, parce qu'effectivement, la parole ne peut pas suffire à valoir condamnation, mais nous devons y travailler. Je vous prends un exemple précis. Mmh. Nous avons missionné nos inspections avec la ministre de la Santé pour que nous puissions établir la preuve dès le passage à l'hôpital, par exemple. Il peut arriver qu'au moment du traumatisme, la victime ne souhaite pas forcément porter plainte. Et donc, du coup, il n'y a pas le recueil de preuves. Mais on a une mission qui doit nous donner ses conclusions dans quelques semaines, qui doit nous permettre d'établir que ce passage-là, les constats qui sont faits, seront des éléments de preuve dans un procès qui viendra peut-être dans 5 ans. De faire en sorte que si dans 3 ans, la personne se dise « oui, j'ai subi ça, je veux porter plainte », nous puissions aller rechercher la preuve depuis l'origine. Nous avons conscience de ces limites-là et je comprends parfaitement, mais si je le regrette, qu'une femme victime n'ait pas confiance parce qu'elle est dans un système qui lui dit « mais c'est un peu toi qui es coupable, vous connaissez cette vieille mise en cause totalement anormale ». Et je peux comprendre aussi que face au choc, elle ne porte pas plainte. Il faut porter plainte de façon systématique.
Merci à vous Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, était ce matin l'invité de France Info.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.